Maurice Strauss, Adam Worth, chapitre 10. Je l'ai bien dit, loin de m'abattre, la prison m'a redressé. Mes loisirs forcés m'ont stimulé à la lutte, incité à mieux faire, et, j'ose le dire, perfectionné dans mon art. J'ai conservé mes anciennes qualités, patience à guetter, à attendre l'occasion, et promptitude à la saisir. De plus, j'ai affiné ma prudence, développé mon énergie. J'applique sans transiger le fameux adage anglais « business before pleasure », les affaires avant le plaisir. Proposition que naguère je me plaisais parfois à renverser, soutenant que les occasions de vraiment s'amuser ne sont que trop rares dans la vie, tandis qu'on peut toujours travailler. Mais maintenant, après les coups de maîtrise que je viens d'accomplir, je me sens en quelque sorte réhabilité de ma sottise de m'être laissé prendre, et je me sens nullement enclin au repos. Mais je reconnais la nécessité de changer de théâtre de mes exploits. Ceci, je les prévois fameux. Allons, je vais d'abord me retremper chez les miens. C'est ma route d'ailleurs. Et pendant 2 mois, si vite écoulés hélas, je profite des joies pures et saintes de la famille. Puis je m'arrache aux caresses de ma Dorine, aux instances de mes fils, et quand le train qui m'emporte démarre, je bénis encore ma chance, qui veut que la police de partout, si acharnée à me connaître, ignore ce home, ce foyer perdu dans la montagne. Il est vrai que je ne m'y achemine que lorsque j'ai parfaitement brouillé la piste, dans la certitude bien acquise de n'être point épié, suivi par un quelconque détective. 6 jours de chemin de fer et me voilà à San Francisco, à Frisco, comme disent les Américains. Les placers en Californie sont à peu près épuisés. Et l'or n'en est que plus abondant dans le pays. J'ai fait route avec une dame fort remarquable. Elle n'est pas jolie, jolie, mais si séduisante. Et tous deux, nous nous sommes cantonnés, d'abord dans une prudence expectative, l'un voulant voir venir l'autre. Et soudain, à une flamme dans son regard, je me suis aperçu qu'elle venait de comprendre que je ne suis pas l'agneau, mais le loup. Moi, j'avais déjà reconnu que si elle avait des splendides bijoux recelés dans ce sac qu'elle ne quittait pas un moment, je ferais aussi bien de ne pas chercher à m'en emparer. Elle se laissa aller à quelques confidences dans le désir de voir si je ne pouvais pas lui être utile. Et son attente ne fut point déçue. C'était une Eurasiate, c'est-à-dire une fille née dans l'Inde d'un père européen et d'une mère asiatique. Avec M, son père, elle avait été à bonne école et aventurière de grande envergure, elle parcourait le monde, y laissant à chaque étape la mémoire de quelque escroquerie stupéfiante d'ingéniosité et d'audace. Celle qu'elle venait d'accomplir en France était vraiment remarquable. Elle avait d'abord soigné la réclame. Un mot lâché négligemment, mais dans l'oreille qu'il fallait pour être utilement ébruité, avait mobilisé les reporters. Un écho dans les journaux mondains annonçait avec tapage son arrivée. On l'y gratifiait du titre de princesse hindoue, ce qui ajoutait à la grâce de ses noms exotiques moins de prestige que l'affirmation de sa fabuleuse fortune. Alors, sur sa demande, le ministre de l'Intérieur, président du Conseil des ministres, s'était empressé de lui accorder audience. Elle se faisait passer pour une philanthrope avide d'améliorer le sort des déshérités de la fortune, exposait son dessein de doter les écoles de 36 000 communes de France d'autant de bustes de la République. Ces objets d'art en plâtre, cela va sans dire, et qui devaient égayer de misérables intérieurs, elle entendait le faire fabriquer en Belgique, où elle avait découvert une usine qui les livrerait à fort bon compte. Le ministre approuva hautement cette pensée si délicate et donna à entendre que la République ne se montrerait pas ingrate et accorderait quelques rubans violets ou verts à l'auteur d'une si belle action. De plus, il recommanda la philanthrope à son collègue des finances de qui les douanes ressortissent. Dès lors, l'aventurière, accompagnée de hautes dignitaires de la douane, n'eut aucune peine à introduire en France des trains entiers chargés de bustes en plâtre qui recelaient dans leur cavité de la dentelle, du tabac et des cigares fins. Ainsi, fraudant les droits, elle lésa l'État français de plus de 3 millions de francs au grand contentement des contrebandiers belges pour le compte de qui elle avait opéré. Quand la fraude fut découverte, il était trop tard. De plus, sur un ordre venu de haut lieu, l'affaire fut étouffée dans son germe. Ce qui importait le plus, pensaient ces messieurs, c'était d'éviter le scandale et aussi le ridicule. Et elle m'avait narré ça le plus simplement du monde. Du coin de l'œil, tandis qu'elle parlait, elle guignait mes impressions. Par la mimique et la parole, je ne crus pas devoir lui déguiser mon admiration. J'ajoutais que nous devrions combiner quelque chose dans ce goût-là au détriment des gros richards de San Francisco. En souriant, elle m'avoua que ses confidences n'entendaient que vers ce but, obtenir mon aide, et qu'elle serait enchantée d'avoir parti lier avec moi, ayant dès l'abord jaugé ma valeur. Puis elle me révéla son plan que je dus approuver sans réserve, n'y trouvant pas une faute, rien à redire, ni pour l'ensemble, ni dans les détails. Cette conversation, nous la tenions en plein air, et le son de notre voix, couvert par le grondement de la ferraille du train, dans sa course vertigineuse. Car, emmitouflés de chaude fourrure, nous étions réfugiés sur la plateforme du wagon. À ce moment, le train franchissait les cimes neigeuses de la Sierra Nevada. À notre droite se creusait le précipice, dans la descente des plus désirables, et de notre gauche se dressait à pic la muraille de basalte couronnée de festons de glace. Mais, excités par l'appât du gain, n'étions pas en état de nous abandonner au charme du paysage, ou pour mieux dire, nous le goûtions sans perdre le fil de notre pensée directrice. Affaire et plaisir à la fois, l'une t-il mêlée à l'agréable. À Frisco, nous descendîmes à des hôtels différents, mais tous deux de premier ordre. Puis je fis insérer une annonce offrant une récompense honnête à qui pourrait me renseigner sur l'adresse actuelle de Mrs. Sevilla Thompson, héritière de M. Crookes. Naturellement, le mystère de cette annonce incita les reporters à solliciter des détails. J'en fus prodigue. Justement, la pénurie d'événements était cause que les journaux ne trouvèrent souvent à tour de copie. Ils accueillirent avec avidité la matière que je leur fournissais et brodèrent encore de leur mieux, avec autant de zèle que nous pourrions le souhaiter, sur un sujet déjà si romanesque. De plus, ils insérèrent avec force commentaire une interview de Mrs. Sevilla Thompson qu'il m'avait pas été difficile de trouver au Continental Hotel, où elle avait loué un somptueux appartement. Mrs. Sampson, on l'a deviné, c'était l'Eurasiate. La Madre Comer, dès le début, entre bien dans son rôle. Elle joua supérieurement la comédie de l'effroi du reporter. Elle refusa de recevoir les journalistes, indiquant toutes sortes d'excuses. Indisposition, la fatigue, qu'elle n'avait rien à leur dire. C'était le vrai moyen de les stimuler, de leur ôter tout soupçon, s'ils pouvaient en avoir. Si bien que, piqués au jeu, ils usèrent des stratagèmes auxquels ils recourent en pareil cas. Le premier qui, moitié de gré, moitié de force, arracha à Mme Thompson ses confidences, parvint à l'approcher en lui servant son premier déjeuner qu'elle prenait dans sa chambre. Car, dans ce but, il avait largement payé un garçon de l'hôtel pour que celui-ci lui prêta sa veste blanche et lui permît de prendre sa place. Et ce fut en déposant le plateau sur la table qu'il se fit connaître, déclinant sa qualité. Et M. Thompson, faisant d'abord celle qui était sérieusement fâchée, se mit à rire, et elle parla. Le reporter crut tout, nota et publia. Après quoi, il n'eut pas de raison pour persister à rabrouer les mets, arbres. Ce fut ainsi que nous eûmes une bonne presse. Et dans tout San Francisco, que dis-je, dans toute l'Amérique, il ne fut question que de la palpitante histoire de Mme Thompson, qui avait hérité de plus de 100 millions et ne pouvait, sur le trésor, préserver seulement de quoi acheter du pain. Car je m'étais fait passer pour un fils illégitime du défunt M. Crooks, qui, faut-il dire, n'avait jamais existé que dans mon imagination. Grâce à une instance en référé, je venais d'obtenir un jugement qui me permit de faire apposer le sceau de justice sur le coffre-fort que Mrs. Thompson venait de louer à la Californian Bank et qu'elle savait rempli de vieux journaux en guise de titre. Innocent facétie. La procédure suivit son train. Ce n'était qu'assignation, signification de jugement, mise en demeure. Discrètement, Mrs. Thompson laissa deviner sa détresse. Et les offres surgirent. La vue du coffre incitait à la générosité. Moyennant des contrats en bonne et due forme, des capitalistes consentirent à de sérieuses annonces en échange de la promesse qu'ils participeraient aux bénéfices de l'héritage. Comme de juste, Mrs. Thompson acceptait de toutes parts, souscrivait à toutes les conditions. Et en moins de 15 jours, elle avait touché plus de 100 000 dollars, 500 000 francs. Nous avons limité notre ambition à ce chiffre. Nous jugeâmes qu'il était temps de laisser aux commanditaires la faculté de partager entre eux le contenu du coffre-fort. Nous disparûmes donc. Mrs. Thompson, sous prétexte d'une excursion à Los Angeles, gagna le Mexique. Elle partait ostensiblement avec toute une société de messieurs et de dames, voire des garçonnets et des fillettes. C'était une de ces excursions familiales, la Garden Party, chère aux Américains, où l'on va en groupe s'ébattre dans quelques beaux jardins où chacun apporte sa contribution au dîner qui va être servi sur l'herbe, sous forme d'une appétissante victuaille, de vin, non sans concert préalable entre tous dans le but d'éviter le pléonasme culinaire. Et cette bande joyeuse, bien résolue à se divertir, en une saine et charmante réjouissance, était composé surtout de ses commanditaires, qui s'attendaient à toucher quelque jour 100% de l'argent qu'ils avaient sur la foi de l'imposant coffre-fort si allègrement avancé à la fosse Malsis Thompson. On partit à dos de mulets en gens qui ne sont pas pressés d'arriver. Et naturellement, Mrs. Thompson, comme ses compagnons de route, n'emportait en fait de bagages que le strict nécessaire pour une telle partie de campagne. Ses grandes malles, ses nombreuses valises restaient à l'hôtel que, dans la créance universelle, elle devait bientôt réintégrer. Mais ses valises, ses malles, gages de retour, c'était plus bourré que de logs et de chiffons, de détritus et de croûtes de la desserte. Et peu à peu, emportant quelque chose à chacune de ses sorties, Mrs. Sampson avait expédié par petits paquets à Mexico tout ce qu'elle possédait en hardes et fresques. Et elle disparut le plus simplement du monde. Dans le jardin où l'on se promenait, elle éprouva le besoin de s'isoler, le déclara aux dames avec qui elle se trouvait. Elle marcha vers l'endroit où, censément, elle devait se rendre, et qui, par une pudeur toute américaine, était masquée par des buissons. Et au lieu d'entrer dans l'édicule, elle le contournait et elle se trouvait devant un trou pratiqué dans la haie. Et là, sur un sentier peu fréquenté, se tenait à cheval un Mexicain, son complice, qui l'attendait avec un deuxième cheval qu'elle enfourcha d'un bond, car elle pratiquait l'équitation à la manière des cowgirls. Et mule des cowboys, gardeurs de bâches, c'est-à-dire qu'elle se tenait en selle, une selle d'homme, cela va sans dire, jambes de ci, jambes de là, et elle partit au galop. Les sabots des chevaux étaient chaussés de feutre, et la route, un sentier, n'était que de la terre couverte d'herbes folles. Les coursiers, dans leur galop, ne firent pas plus de bruit que des chevaux fantômes de la balade. Là de l'attendre, ses compagnons s'alarmèrent pour elle, et non pour leur argent qu'elle emportait. Car on leur eût dit à ce moment-là qu'elle leur avait brûlé la politesse, que l'héritage qui devait les indemniser avec un profit si sérieux que cet héritage n'avait jamais existé, que dans son imagination, qu'il se serait récrié, refusant à croire à la vérité. On fouilla donc le jardin. Chaque massif fut exploré, on sonda un étang, on sonda une carrière, rivière, et toujours rien. Et pour cause. Puis, quand après de minutieuses recherches, à la surprise générale, ni la personne vivante ni son cadavre ne fut retrouvé, on s'arrêta à l'idée d'un rapt, d'un enlèvement. Sans doute ce Monsieur Crofts, ce bâtard, ce fils illégitime du défunt Monsieur Crofts, le multimillionnaire défunt, qui osait par toutes les voies et tous les moyens de droit attaquer la suprême volonté du défunt et contester à Mrs. Sampson l'héritage, sans doute cet homme si fâcheux, désespérant de sa cause, avait-il eu recours à ce moyen violent de supprimer son adversaire en l'escamotant. Et ce faux Monsieur Crooks, ce bâtard, ce fils illégitime d'un homme qui n'était jamais venu au monde, c'était moi. Et ce fut moi que la police rechercha. Elle ne commença cette recherche que 8 jours après la disparition de Mrs. Thompson, car alors seulement elle reçut le témoignage et la confidence de leurs soupçons des personnes qui s'inquiétaient du sort de la disparue. J'avais mis ce temps à profit, ne me souciant pas d'attendre la découverte de la fraude, découverte qui ne se produisit que 3 mois plus tard, quand enfin les mêmes moins bêtes de la bande, pris d'un vague soupçon, sollicita et obtint de la justice californienne l'ouverture du coffre-fort bourré de vieux papiers en guise de 20 millions en valeur de tout repos. Beaucoup de théâtre, je l'imagine. Pour ce qui est de moi, quand la police fut curieuse de me voir, je voguais sur le Pacifique à quelques 100 lieues au large de San Francisco. Mais non pas sans avoir d'abord assez joliment travaillé. Dans le langage commun en Amérique apparaît souvent ce lieu commun. « Don't try to sell me a gold brick. » N'essayez donc pas de me vendre une brique d'or. Et c'est équivalent à peu près à l'adage français. Vous voulez me faire prendre des vessies pour des lanternes? Ce dicton américain est né vers 1854, à l'époque de la fièvre de l'or, quand l'immigration des opéras européens se ruait sur la Californie, quand les équipages des navires désertaient pour se mettre en quête d'un placeur à la recherche des pépites, quand on ne parlait que de fortunes fabuleuses réalisées en un jour, quand tant d'hommes énergiques et robustes sont morts de faim dans le désert, près de la roche d'or qu'ils avaient enfin décelé. Mais parmi cette foule d'hommes avides, prêts à tout pour la conquête du précieux métal, symbole de tout bonheur, de tout contentement, la plupart, bandits sans loyauté, farouchés d'un égoïsme naïf, ne demandaient qu'à corriger le hasard. Vite rebutés si le succès ne venait de suite couronner leurs âpres efforts, ils ne songeaient plus alors qu'à épier d'autres gambusinos, chercheurs d'or, plus heureux, à les déposséder, le pistolet dans leur poche. Au moment propice, ils lâchaient leur coup, par traîtrise à travers l'étoffe, et le grand couteau, la machette et le knife achevaient l'œuvre. Ils abandonnaient le cadavre au vautour de la Sierra, emportaient l'or qu'ils se hâtaient d'aller perdre au jeu, le poker, par eux inventé, dans les bouges de San Francisco, où ils buvaient du champagne à raison de 125 francs la bouteille. Mais d'autres, moins féroces et plus rusés, recouraient à l'escroquerie pour corriger la chance qui s'obstinait à les bouder. Et ceux-là avaient imaginé le truc de la brique d'or, the gold brick swindle. Pour mener à bien l'entreprise, il faut se rejoindre des complices. Ce sont les confidence men que l'on rencontre par hasard, justement quand on est avec le pigeon qu'il s'agit de plumer, et qui, dans la conversation, jette alors la meçon d'un air détaché et négligent, avec une indifférence qui n'est pas dans leur cœur, et qu'il est beaucoup plus difficile d'affecter que le vulgaire ne le croit. Car si j'ai parlé d'hameçon, c'est que le terme rend bien ma pensée. Tout comme à la pêche à la ligne, il faut savoir agiter l'appât de telle façon que le poisson l'aperçoive, en soit tenté et morde. Mais il faut aussi savoir éviter toute brusquerie qui l'effraie et le met en fuite. Pour la certitude du succès de l'entreprise, il fallait encore un Indien, un vrai peau rouge. Si aujourd'hui on n'en trouve plus hier, à cette époque éloignée, il pullulait. Or, de tous les humains, c'est le peau rouge qui, sous les ordres d'une farouche méfiance, d'une intransigeante bêtise, dissimule le mieux une sagacité étonnante, une ruse fine, sans cesse en éveil. Quand on avait un colisman marmot, ou même deux, et l'Indien, tel qu'il convenait à la circonstance, l'air godiche et placide, au fond très roué et le plus âpre au gain, il ne fallait plus que chercher la dupe. Les naïfs, lestés de quelque argent, les greenhorns, cornes vertes, comme les appelaient les Américains, ne manquaient pas parmi les nouveaux débarqués. Ils avaient en Europe réalisé tout leur avoir. Attirés par la fièvre de l'or, ils arrivaient, portant sur eux tout leur pécule, plein de méfiance, car on les avait avertis de se méfier, mais avides de renseignements, se figurant que celui qui serait à la fiction ou le filon inconnu, la poche ignorée, était situé, le leur dirait avec bienveillance. Donc, quand on avait trouvé un homme, une bonne tête, on amorçait la conversation. Et il fallait du flot, du tact et du doigté. Et on le laissait venir. Bientôt, le naïf engageait la conversation sur le sujet qui lui tenait le plus à cœur. On faisait l'entendu. Mais on avait soif. Naturellement, l'autre, brûlant de tenir le précieux renseignement qu'il convoitait, offrait la tournée. Ce que l'on se gardait d'accepter. Si bien que, reconnaissant le désintéressement absolu de son interlocuteur, le pauvre imbécile se déboutonnait. Alors on disait que le voyage au placer coûtait cher. Il fallait tant pour une couple de chevaux, l'un portant le cavalier, l'autre le bagage, et les provisions, car l'or se trouvait dans une région désertée, dénuée de toute végétation. La dupe, non sans une sorte de fierté, déclarait avoir ce qu'il fallait, et il n'était point difficile de lui faire dire combien. Si cela en valait la peine, un signe imperceptible pour les non-initiés avertissait le confidence man attablé au fond de l'établissement. Il accourait, salutations chaleureuses, poignées de main, exubérant, éclat de rire et présentation. Voici un brave homme qu'il faut tâcher d'aider. Il est venu d'Europe pour trouver de l'or. Il voudrait savoir où il y en a. « Oh, je crois que le placeur du Quai Rideau ferait son affaire. »« Le placeur au Quai Rideau, mais d'où sortez-vous, mon cher ? Depuis 8 jours, il a été exploité et vidé, ce placeur, par un de ces damnés mexicains que le ciel confonde. »« Alors, il faut lui trouver autre chose. »« Moi, j'ai trouvé quelque chose. »« Et où ça ?» intervient la dupe. Dans sa cupidité naïve. Le confidence man lui lance un regard indigné et, surpris, ne lui répond pas un mot. Mais l'autre, l'ami, l'organisateur de l'escroquerie, reprend. « Voyons à moi un ami, vous ne refusez pas de le dire. »« Oh non, mon vieux, en affaire, il n'y a pas d'ami. L'un lâche... Tâche de mettre flotte dedans. Ne me laisse pas dire, ne me laisse pas faire. » Et il parle d'autre chose, à la profonde angoisse de la dupe, qu'il y avait un moment s'abandonnait à la joie et maintenant désespère. Mais l'homme qui vient de refuser le renseignement que la dupe attendait à recevoir, cet homme soudain, se frappe le front. Oh, au fait, il faut de l'argent pour faire l'affaire. J'en ai mais pas assez pour décider ce damné d'Indien maître du trésor. Voulez-vous que nous fassions l'affaire ensemble ? Oh, je ne demande pas mieux, s'écrie la dupe. Mais je voudrais tout de même savoir d'abord ce que c'est. Parfaitement raisonné, lui répond-on. Et là-dessus, on lui raconte l'histoire de la brique d'or qui pèse un quintal et vaut plus de 30 000 $. Car c'est de l'or vierge, c'est-à-dire pur de tout alliage. Elle est, cette brique, en possession d'un vieil indien, hostile et rébarbatif, une manière de brute têtue, qui ne lâchera la chose que contre l'argent comptant. Et voici comment il en est devenu propriétaire. Quelques bons lurons, qui n'avaient pas froid aux yeux, et une chance de tous les diables, s'étaient associés pour trouver et exploiter des placers. Avec ce succès, l'appétit du bien-être s'était révélé. Ils avaient engagé cet Indien pour leur servir de domestique. Ils lui payaient les gages, surtout en whisky, et ils s'étaient attachés à cette grande brute taciturne, mais docile, et qui, à part cela, n'avait rien pour plaire, rien de bien attachant. L'un après l'autre, les trois associés mourait, celui-ci dans une risque de jeu après boire, celui-là en se cassant le cou dans la montagne, le troisième décidé de la fièvre. Il laissait un bout de papier, une manière de testament, par lequel il se léguait leurs économies les uns aux autres, jugeant jusqu'au dernier survivant, et même, ils avaient prévu le cas où ils viendraient à mourir tous les trois. Ils étaient morts tous les trois, et l'Indien héritait. En vertu de ce sale chiffon de papier, à l'écriture tracée d'une encre pâle à peine lisible, un document inattaquable. Et la brique d'or était à lui. Rien que cela, car les trois associés avaient tous les trois mis en commun leurs pépites. Ils ne prélevaient sur le tas que ce qu'il leur fallait tout juste pour les emplettes de première nécessité, la petite noce de rigueur, la soulographie al Francisco, la passe d'amour avec une gueuse, la partie de poker. Et tous trois avaient fait le serment de ne jamais jouer sur parole, car on les savait riches, et on aurait pu abuser de la manie qu'ont les joueurs en perte de courir après leur argent. Si bien que toutes ces péripépites amoncelées, ils les avaient fondues en un seul lingot, qui était la brique d'or. On comprend que, vu la disposition d'esprit où la dupe avait été si habilement amenée, il lui tardait de conclure une affaire si brillante. L'argent que de sa main molle de fièvre, il tâtait dans sa poche, lui brûlait les doigts, si vive était son impatience de troquer, de la troquer contre la brique d'or. « Est-ce que vous ne pourriez pas me mettre en rapport avec cet Indien ?» murmurait avec timidité cet homme si pressé d'être dépouillé de sa petite fortune. L'autre, le confidence man, ne se hâtait pas de répondre. Il avait froncé le sourcil et sifflotait. Enfin, après toute une mimique de méfiance, il finissait par s'écrier « Vous savez qu'il ne faut pas me la faire. Vous voudriez la faire pour vous, tout seul, n'est-ce pas? Et puis après, bonsoir. Oh, je pourrais me taper. » Mais pensez-vous, s'indignait la dupe. Oh, je le voudrais, je ne le pourrais pas. Je n'ai pas tant d'argent. Mais combien pouvez-vous mettre dans l'affaire? Dites-moi d'abord ce qu'elle rapportera. Voilà, ce dernier indien vaut 5 000 $, 25 000 francs. Et la brique pèse au moins un quintal. C'est de l'or vierge. Il y en a donc pour 34 000 $. C'est-à-dire 170 000 francs. Bon, ben, très bien, je fais la moitié de la somme. Oh, alors, l'affaire est faite, s'écria l'écrou. Car j'ai de quoi faire l'autre moitié. Et il sortait de sa poche une poignée de Doppelkeks, pièce de 20 $, soit 100 francs, mais qui, faite de pyrite, ne valait rien, et toute une liasse de billets de banque, qui manifestement faux, ne valait pas davantage. Mais la dupe était incapable d'y voir de si près. D'ailleurs, prise soudain d'une prudence inutile, malheureux disait « Êtes-vous sûr que cette brique est véritablement en or ? Voici une pierre de touche. Mettez ça dans votre poche. Nous allons chez l'Indien. On ne sait pas bien loin. En 2 heures de galop, nous nous trouverons dans son fourbi. Il ne fera aucune difficulté de nous montrer le morceau. Vous y frotterez votre pierre de touche et nous reviendrons à la ville. Portez ça au bureau d'essayage. Vous savez, c'est le bureau du gouvernement. Oui, je sais, murmura le naïf, et dans son esprit, aucun soupçon ne pouvait subsister. On galopait jusqu'à la montagne. Là, dans une anfractuosité de roche, on trouvait l'Indien, habillé pour la circonstance de plumes et d'une peau de bison, la ceinture ornée de scalp postiche, chaussé de mocassins, fumant le calumet, ayant apporté de sa main une lance et un tomahawk. Bref, une mise en scène niaise comme au théâtre, de quoi ravir un damné Glenhorn au cerveau européen pourri des fades et ridicules romans. La dupe, avec un religieux émoi, tendait son muscle pour soupeser la lourde brique, il frottait la pierre de touche. On retournait à la ville, le bureau d'essayage, après l'épreuve à l'eau régale, affirmait que c'était de l'or pur, parbleu. Si la brique était de cuivre massif, on n'en est pas moins revêtu d'une mince couche d'or. On retournait en hâte chez l'Indien, qui avec gravité encaissait l'argent faux de complice et le bon argent de la dupe. Et avec une confiance qui aurait dû lui paraître suspecte, s'il avait été si bête, le volé recevait du voleur la mission de garder la brique jusqu'au lendemain, quand on trouverait acheteur. Car en ces allées et venues, le temps s'était écoulé, et quand on se trouva de nouveau dans la ville, les tripots étaient ouverts et les magasins fermés. Il va sans dire que le lendemain, ni l'allumeur, ni son confidence man ne venaient au rendez-vous fixé, et que tout le monde se moquait du sceau qui offrait en vente du cuivre, soutenant que c'était de l'or, qu'on lui avait certifié au bureau d'essayage. Si je suis entré dans ces détails, si je me suis forcé de montrer le mécanisme de l'escroquerie classique de la brique d'or, c'est à seule fin de faire comprendre le coup que j'avais médité et que j'accomplis avec un plein succès, tout de suite après le départ de Mrs. Thompson. San Francisco, aujourd'hui, une des plus grandes villes du monde, une des plus peuplées, avec ses larges arbres, ses artères, ses superbes édifices, ses maisons de marbre à 30 ou 40 étages, était à l'époque où fleurissait l'escroquerie à la Brique d'Or, une agglomération désordonnée de cabines et d'huiles, de huttes, de grossières maisons en bois, de tentes de toile, de cuir, de peau, de branchages, de wigwams à la manière alienne. Quant à la population, fixe, elle atteignait à peine le chiffre de 500 habitants. Flottante, elle dépassait parfois 100 000, alors que, venue de tous les points du globe, le grand concours des navires déversait dans son port la cargaison humaine entassée dans les entrepôts et dans les cales, la nuée d'immigrants hâves, faméliques, cupides, que brûlait la fièvre de l'or. À cette époque, déjà si éloignée de nous, un clever boy de New York, dégoûté de la cambriole, avait rêvé de faire une fin honorable. Le chemin de fer qui rallie l'Atlantique au Pacifique n'était pas encore bâti. Notre homme s'embarqua à New York pour Colonna Sproul, traversa l'île de Panama et de rechef, par mer, arriva à Frisco. Il y avait un bar dans une manière de hangar en bois à l'air battu, où les tables et les bancs étaient solidement encastrés dans le sol et ne pouvaient servir d'armes meurtrières aux joueurs ivres et prompts à la querelle et à la rixe. Ils lui vendaient tout fort cher. C'était le bon temps. Mais ils ne vendaient pas seulement, il cherchait aussi l'or et les bijoux que les voleurs lui apportaient. D'ailleurs, à cette époque, dans tout bar, dans toute boutique californienne, le tenancier gardait dans son comptoir une balance pour peser l'or, une pierre de touche pour l'essayer. Carré Gambusinos, le plus souvent, payait en pépites et exigeait le change en monnaie. Et au lieu de revendre les pépites et les bijoux volés qu'il recevait en paiement ou qu'il achetait, John Corner, car tel était son nom, s'amusait à garder tout ça et n'en parlait à personne. Mais si, il en avait parlé à quelqu'un, à moi. Il y avait 5 ans, j'avais passé par son bar, qui n'était plus du tout le hangar en bois, sa forme primitive, mais un établissement bien moderne, un comptoir de marbre, aux hautes glaces reflétant quantité de cristaux de couleurs. Bref, un bar à l'américaine, qui n'aurait pas fait mauvaise figure dans un bon quartier de New York ou de Londres. J'avais remis à John Corner une lettre de son plus cher ami qu'il n'avait pas revu depuis 20 ans, et le bonhomme, tout attendri par des souvenirs de jeunesse sans doute, des coups faits en commun, me traitait comme il aurait traité son ami, dans une intimité bruyante et, disons le mot, un peu obsédante. Mais s'il me dit un tas de choses que je n'écoutais guère, j'ouvris l'oreille quand il me montra le contrepoids en métal qui, attaché à une corde, agissait sur une tringle par laquelle la porte se fermait seule, évitant à ceux qui entraient la peine de la fermer, soin que la plupart auraient négligé. « Vous voyez ce gros lingot ?» me dit-il. « Eh bien, fis-je pour être poli, vous croyez que c'est du cuivre ?»« Mais qu'est-ce que c'est, sinon du cuivre ?» répliquai-je, plus intéressé. « C'est de l'or. Ah, ah. Ah, oui, je vous dis ça à vous, parce que vous êtes l'ami de Jim, qui est mon plus cher ami. Et je sais que vous êtes incapable de chercher à voler un copain. » Il se tourna vers le comptoir, m'y montra bien en évidence, en servant de poêle au réchaud, qui maintenant a une bonne température, l'eau pour le whisky, une brique énorme en métal jaune. « C'est aussi de l'or !» fit-il en clignant de son petit œil malicieux. « Bon, j'y suis, m'écriai-je. Vous voulez essayer de me vendre la brique d'or ?»« Pour un imbécile !» fit-il, plus fâché de ma plaisanterie qu'il n'était séant. « Mais je veux rien vous vendre. Vous ne comprenez donc pas que je mets ainsi mon trésor mieux à l'abri des voleurs que si je le déposais à la banque. Parfois, un client m'indique ça du doigt en me demandant, en plaisantant, « Combien la brique d'or ?» Et je lui réponds sur le même ton, « Hélas, ces temps-là sont passés. Mais si vous trouvez tout de même quelqu'un capable de se laisser faire, tout arrive. » « Eh bien, par deux. »« Ah, très bien, ce n'est pas bête, vous savez. » Il me poussait deux doigts dans les côtes et s'esclavait. « Un grog à la santé de mon idée, voulez-vous ?»« Volontiers. » Et quand j'en eus fini avec l'héritage, Crooks, et que Mrs. Thompson fut partie, je voulus, avant de quitter Frisco, revoir ce vieil original. Je vis la tringle à la porte avec son contrepoids, la brique sur le comptoir, mais c'était d'autres gens qui tenaient le bar, deux frères de bonne fripouille, comme leur mine me le révéla de suite. Le vieux était mort depuis 2 ans. J'avais pris mon air le plus niais, le plus gobeur quand je m'étais informé de lui. Généralement, à de rares exceptions près, je prends cet air-là quand je m'adresse à des gens que je ne connais pas. Il est toujours temps de se montrer au naturel quand cela devient nécessaire. Tandis qu'on ne peut plus se faire passer pour une poire quand on a commencé à faire comprendre qu'on était satifère. Les deux frères échangèrent une œillade. Je me composais une mine ahurie. « Alors, vous connaissiez John Cooper, Gorner ?»« Qui ça ?»« Ah oui, le vieux !»« Oh, je le connaissais sans le connaître. »« On s'était vu, il m'avait proposé une affaire. »« Mais alors, je n'avais pas assez d'argent. » Nouvelle œillade, cette fois pleine de joyeux espoir. Mais quelle affaire ! Oh, puisqu'il est mort ! Mais dites toujours. Pourquoi ? À quoi ça pourrait-il servir ? Mais bougre d'entêté, puisqu'on vous dit que nous sommes les successeurs de John Corner, alors c'est que nous avons pris la suite de ses affaires. Un enfant comprendrait ça. « Oui, c'est vrai tout de même. Eh bien, il m'avait proposé une brique d'or. Il demandait 2 000 $. Et maintenant, vous les avez, les 2 000 $ ? Ah, je vous dirai ça quand j'aurai vu la brique. Et la voilà, la brique d'or. » Et il me montrait le socle sur le comptoir. J'éclatai de rire et je répondis « Ah non !» Si vous voulez vous moquer de moi, oh là là, si vous êtes obstiné, je vous dis que c'est la brique. Si vous n'en voulez pas, n'en parlons plus. Je m'étais approché, je la sentais, je la regardais, et je m'écriais, mais c'est peut-être vrai, on dirait de l'or. Moi, j'avais la certitude que c'en était. Car je venais de relever la marque que j'y avais faite du temps du vieux John Corner, à côté de l'imperceptible trou qu'il y avait foré, perçant la brique d'outre en outre pour me montrer que les éternors massifs, et non pas seulement à la surface, comme ces deux imbéciles qui voulaient m'empiler le croyaient. « Vous permettez, » fis-je, en sortant d'une pierre de touche et un petit flacon de régal. « Oh, comment donc ?» s'écrièrent-ils, tous deux, absolument enchantés. Je raclai la brique avec ma pierre, j'y versai quelques gouttes de réactif. « Oui, c'est de l'or. Alors, vous la vendez, $2,000. Non, 3,000. Ah, fis-je l'air navré, alors, n'en parlons plus. Je n'ai que $2,000, je ne veux pas donner un cent de plus. C'est bien vrai, ce mensonge-là? Oh, si vous me traitez de menteur, je n'ai plus qu'à prendre la porte. Et je m'y dirigeais. Oh, monsieur le pointilleux, ne soyez pas si pressé. Oh, je ne tiens pas à perdre mon temps. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait de l'or aussi. Pour le coup, les deux compères surent se mordre les lèvres pour éviter un rire effarouchant. C'en est. Tenez, une affaire pour vous. Et c'est notre dernier mot. Vous verrez. Rubis sur l'ongle. $2,050 et vous aurez la brique et le contrepoids. N'est-ce pas, Jim? Et Jim, son frère, approuva. Eh bien, répliquai-je. Je vais chercher une voiture. Ils échangèrent un regard consterné. Et si j'allais me raviser en route, ne pas revenir? Oh, c'est pas la peine de vous déranger. Jim va se mettre à la porte et arrêter la première voiture qui passera. Il en fut ainsi. Je payai en présence du cocher, qui fut admis à l'honneur de trinquer avec nous, la somme de $2,550, $10,250, contre bonne et valable quittance. Je détachai le contrepoids de la porte, je mis sous mon bras, et nous ne fûmes pas trop de quatre pour transporter la brique dans la voiture, sans que ces deux imbéciles, tout à la jubilation de m'avoir si bien empilé, songeassent à s'étonner que du cuivre fût si lourd. La brique pesait 150 livres anglaises, 67,5 kg, et le contrepoids, 10 livres. J'avais acquis pour mes $10,250, fort exactement 244,800 francs d'or, que je fis emballer fort proprement et transporter à la gare du chemin de fer. Je retournai à mon hôtel, réglai ma note, invoquant des nécessités de mon procès contre Mrs. Thompson qui m'obligeait à me rendre en toute hâte à Washington, et je promis de revenir dans 6 semaines. Puis, longtemps avant que ne s'écoulât le scandale de Carthage Courts, je pris congé de San Francisco, où j'avais fait une si ample moisson de beaux butins. Je m'installai dans le train qui partait vers l'est. J'avais pris au guichet un billet pour Washington, en accord avec ce que j'avais annoncé à l'hôtel. Mais j'interrompis ma course. C'était vers l'ouest que je comptais me diriger.